RCF.
L'invité du magazine régional.
Il y a moins d'un an, les 15 et 16 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait, suscitant ainsi l'émotion internationale. Une exposition lui est consacrée à la Cité de l'architecture et du patrimoine, le siège de l'école de Chaillot. Et en parallèle de cette exposition, un cycle de conférences, débats est également organisé. Notre-Dame, au fil des siècles, hardiesse et idéal du 12e au 21e siècle. Certaines de ces rencontres seront retransmises en direct, notamment dans le département de l'Aude et de l'Hérault, grâce aux antennes local des CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Pour en parler ce soir, notre invité est Renaud Barrès. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du CAUE de l'Hérault. J'aimerais, première question, vous demander pourquoi avez-vous souhaité vous associer à ce projet de conférence ?
Parce que l'incendie a suscité une émotion nationale bien au-delà des croyants. C'est vraiment un patrimoine de la nation, peut-être le premier qui était en train de disparaître. Et ça nous a paru vraiment important qu'on puisse fédérer autour de cet emblème sur ce que c'est que la préservation du patrimoine. Qu'est-ce que c'est le patrimoine de la nation, finalement ? Et quelles leçons d'architecture, de savoir-faire, presque de savoir-vivre, ça peut nous donner ?
Vous avez donc proposé, en tout cas dans l'Hérault, trois conférences en particulier. J'aimerais bien que nous les regardions un petit peu ensemble. La première aura lieu ce jeudi, c'est à partir de 18h30. Le thème, c'est « Pourquoi faire renaître Notre-Dame, la cathédrale dans les turbulences et recomposition de la France moderne ?» C'est un vaste sujet. Alors la question, pourquoi faire renaître Notre-Dame ?
D'abord, c'est resitué dans le 19e, mais c'est une question qui s'est posée notamment après la Révolution française, parce que la cathédrale de Notre-Dame, comme bien des biens français, était en très mauvais état, pas entretenue, transformée en toute autre chose. Donc la question de sa survie, de sa reconstruction s'est posée. Et même aujourd'hui, la question à une plus petite échelle de l'avenir de nombre d'églises qui malheureusement ne sont pratiquement plus fréquentées, voire sont fermées une grande partie de l'année. C'est un nouvel usage, ou en tout cas, qu'en faire ? C'est une question qu'on doit se poser.
On a l'impression qu'avec l'incendie de Notre-Dame, les questions de rénovation qui à l'époque n'étaient restées dans les mains des institutions, des ministères, on a l'impression que maintenant le dossier a l'air de basculer un petit peu avec le public, c'est-à-dire qu'on demande aussi l'avis du public. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que il est tout à fait normal finalement d'inclure le public dans un projet tel que la restauration de Notre-Dame de Paris ? Symbole ô combien important de notre pays.
Alors je pense que comme c'est un bâtiment, un monument qui parle à tout le monde, évidemment que beaucoup de gens ont un avis, notamment sur la question faut-il reconstruire à l'identique ou non.
Exactement.
Alors pourquoi pas écouter les habitants, bien entendu. Moi j'aurais tendance à penser qu'on devrait plus les écouter, surtout sur tout nouveau projet. Bien sûr, sur la rénovation, c'est important, mais là, il y a vraiment des questions techniques que malheureusement tout le monde ne maîtrise pas et qui vont faire partie de la décision à la fin. Mais quand on construit un nouvel espace, une gare, j'en sais rien, une place dans la ville, évidemment qu'on devrait beaucoup plus associer les habitants. Et c'est en plus comme ça que les projets, finalement, se développent le mieux et où il y a le moins de recours. Donc tout le monde est gagnant quand on associe les habitants.
En plus, c'est vrai que pour Notre-Dame de Paris, on a entendu beaucoup de projets hein, en termes de rénovation, du plus traditionnel au plus farfelu, et ce alors que les cendres étaient encore chaudes. Est-ce que tout est envisageable, même quand on parle d'un édifice comme Notre-Dame ?
Alors, bon, il y a la question tout simplement technique. Est-ce que aujourd'hui, les pierres qui ont énormément chauffé sont capables de supporter une charpente aussi lourde que celle d'origine ? En sachant que cette charpente-là était en bois très, très importante, surdimensionnée, on pourrait dire, parce qu'elle avait des tuiles, elle portait des tuiles en plomb. Il est évident qu'on ne refera pas de plomb parce que ça pose un problème de salubrité publique. Et donc, finalement, cette question de à l'identique, pas à l'identique, de toute façon, la cathédrale telle qu'elle est aujourd'hui, et ça fera partie des différentes conférences, c'est une cathédrale telle que Viollet-le-Duc l'a restaurée. Et Viollet-le-Duc lui-même l'a un peu transformé. La flèche elle-même n'était pas celle qui était précédemment. Donc, moi, le fait de faire œuvre d'architecture, tout en restant modeste, parce que les architectes souvent ont envie de laisser leur nom, Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il faut quand même savoir que dans nombre de cathédrales que l'on admire aujourd'hui, comme Chartres, comme Reims, la charpente d'origine n'y est plus, parce qu'elles ont souvent brûlé ou elles ont été en partie démolies par les guerres, etc. Mais finalement, ce qu'on admire le plus, ce qu'on admirait à la cathédrale de Notre-Dame, on admirait la charpente parce qu'elle était d'origine. Mais finalement, très peu de gens la voyaient. En fait, elle ne faisait pas partie de la visite. Donc aujourd'hui, si on arrive à retrouver Notre-Dame, qu'on lui retrouve une flèche, sa toiture avec ses pentes, etc., finalement, que la charpente soit un peu plus légère en acier ou qu'elle soit exactement comme elle était, moi, j'avoue, j'ai pas d'avis complètement défini.
Je vous propose maintenant d'aborder le thème d'une conférence qui sera diffusée le 13 février prochain. Il semblerait même que ce soit plus une table ronde qu'une conférence sur le thème de la cathédrale comme signe dans la ville. C'est un thème qui est passionnant. Vous l'avez souligné en première partie d'entretien, il n'y a pas que les catholiques, il n'y a pas que les chrétiens qui ont été émus par l'incendie de Notre-Dame. Finalement, c'est quoi une cathédrale dans la ville ?
Alors à Paris, c'est déjà le point zéro de toutes les routes de France. C'est quand même un sacré symbole. Hein. Devant la cathédrale, vous avez le point zéro, d'où partent l'ensemble des routes et d'où sont calculés l'ensemble des kilomètres des routes qui innervent la France, enfin en tout cas des routes principales. Donc ça prouve à quel point c'est le point de départ de la ville. Et de toute façon, dans toutes les villes anciennes, c'est le point de départ. Dans les villages, c'est le point autour duquel on vient se protéger. Donc ça a une résonance et une logique. Quand on veut comprendre une ville, évidemment qu'on commence par là, il n'y a aucun doute. Alors évidemment que quand on construit une nouvelle ville, là c'est plus compliqué. Parce que c'est un symbole qui a marqué la vie des gens pendant des siècles, et ça n'est aujourd'hui plus un symbole pour beaucoup d'habitants. Voyons les gens qui râlent parce que quand ils viennent habiter à la campagne, ils entendent des cloches, ce qui est assez absurde, mais ça existe.
C'est vrai que la polémique, on l'entend régulièrement. La cathédrale comme signe dans la ville. Plusieurs invités seront proposés lors de cette soirée. Je pense qu'il sera intéressant de les présenter et quelle sera, à votre sens, la teneur de leurs propos.
Alors, je les connais pas tous, mais Marc Barani, c'est un grand architecte qui est d'origine de la Côte d'Azur. Qui a fait des très jolis projets, et notamment un thème qui est difficile à traiter en architecture, qui est le cimetière. Et il a été connu notamment pour le premier cimetière, l'extension du cimetière de Cap-Martin, donc à côté de Menton, qui est vraiment un chef-d'œuvre, qui est un très très beau travail. Ensuite, Jean-Marie Dutilleul, c'est un très grand architecte qui est notamment connu parce que c'est lui qui dessine toutes les gares de France. Donc ça sera intéressant parce que lui va très probablement parler de l'aspect technique, puisqu'il est à la fois architecte et polytechnicien. Donc je pense que ça aura beaucoup d'intérêt. Après, évidemment, il y a le regard de l'historien, qui est un regard différent du regard de l'architecte, qui positionne vraiment la cathédrale dans une histoire, dans le développement d'une histoire. Et encore une fois, la Révolution française est un point névralgique dans cette histoire-là. Et après, le point de vue de l'écrivain, je suppose que ce sera dans l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Et comment, dans la société d'aujourd'hui, la cathédrale peut être en résonance ou non?
Nous verrons cela donc le 13 février prochain. Et puis la dernière, petite dernière, c'est restaurer et bâtir Viollet-le-Duc, vous en parliez tout à l'heure, au cœur du chantier. Et celle-ci sera proposée jeudi 27 février 2020. Donc on revient sur le thème de la restauration et du bâtir. Une question, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle finalement de Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est un sujet qui sera abordé? Est-ce que des pistes seront données aux personnes qui viendront assister à ces conférences?
Je l'espère. Aujourd'hui, ils en sont à une question très compliquée qui est d'arriver à démonter l'échafaudage énorme qui avait été mis en place, peut-être surdimensionné, enfin qui paraît vraiment énorme, et qui a fondu avec la chaleur. Donc il faut arriver à le découper, le démonter, sans qu'il s'effondre lui-même sur les voûtes, sur les parties de voûtes existantes encore. Donc c'est un chantier, un projet en soi. Donc voilà où on en est, et ils en sont à finir les études pour savoir, encore une fois, ce que la pierre peut soutenir aujourd'hui et ce qu'elle ne peut pas soutenir. Donc moi je trouve qu'il serait présomptueux aujourd'hui de savoir dire comment sera faite la charpente demain. Alors bien sûr, chacun y va de son lobby. Les scieurs, les propriétaires de forêts disent mais nous on est prêts, ça va se faire en bois. Et ceux qui prônent, j'en sais rien, le ciment, le béton à haute performance vont dire ça va être en béton. Chacun essaie d'influencer la décision, mais si on est sage, il faut attendre un petit peu, même si le délai qui a été donné par le président de la République est absolument court. Il avait donné moins de 4 ans après l'incendie, ce qui paraît extrêmement réduit.
Est-ce que depuis qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, est-ce que le CAUE, votre antenne de l'Hérault, a été plus contacté par des particuliers qui auraient des bâtiments, peut-être pas historiques au point d'être Notre-Dame, mais qui se disent, est-ce que finalement, moi, mon bien est aux normes de sécurité telles qu'il devrait l'être?
Non, pas spécialement, parce que il y a une telle différence d'échelle entre ce qu'ils possèdent et Notre-Dame qu'ils font pas forcément le lien.
Et c'est... À tort ou à raison?
Alors à tort, parce que les techniques sont pratiquement les mêmes, notamment sur le patrimoine jusqu'au XXe siècle, on va dire. Le XXe siècle fait entrer de nouveaux matériaux, des choses un peu plus complexes, mais jusque-là, les compétences, elles sont dans les mains du maçon, dans les mains du charpentier, dans les mains du zingueur, voilà. Donc les sujets sont pratiquement les mêmes, ça c'est sûr. Et puis la capacité à brûler reste la même aussi, malheureusement. Mmh.
Un mot peut-être quand même sur Viollet-le-Duc et le travail qu'il a effectué sur Notre-Dame de Paris.
Alors c'est un travail très intéressant. On peut imaginer, puisqu'il a particulièrement bien travaillé, que finalement Notre-Dame était exactement comme ça avant qu'il la restaure, puisque les principes de restauration d'aujourd'hui, c'est à peu près ça, c'est de conserver ou de retourner dans un état qui a existé et qui est parfaitement documenté. Mais Viollet-le-Duc, lui, la plupart du temps, est allé beaucoup plus loin. C'est vraiment une vision d'un état accompli tel que lui-même l'affirme, il n'a pas forcément existé. Et si on prend un exemple très précis, proche de nous, qui nous parle, c'est la cité de Carcassonne, qui finalement a été restaurée par Viollet-le-Duc, mais a été pas mal transformée, à tel point que la première fois qu'elle a été proposée à l'UNESCO, elle a été refusée par l'UNESCO, qui a dit « mais ce n'est pas un témoignage médiéval, il a été trop transformé ». Mais par contre, l'UNESCO a eu l'intelligence de proposer à la Carcassonne de présenter à nouveau la cité comme un témoignage d'un principe, d'un parti de restauration du XIXe siècle, et c'est ainsi qu'elle est protégée. Donc finalement, c'est Viollet-le-Duc qui est protégé au titre de l'UNESCO, et non pas le témoignage médiéval. Ce que tout le monde vient voir, c'est le témoignage médiéval, mais la réalité, c'est que c'est Viollet-le-Duc qui est protégé à Carcassonne.
Ah oui, on est loin de s'en douter.
Absolument.
Renaud Barrès, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du CAUE, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Hérault. Merci d'être venu nous parler de ce cycle Notre-Dame de Paris, cycle de conférences proposé par l'école de Chaillot à Paris et rediffusé dans les antennes CAUE d'Occitanie. Je précise à nos auditeurs que s'ils souhaitent participer et assister plus exactement à ces conférences, il faut bien sûr s'inscrire auprès des antennes CAUE les plus proches de chez eux. Merci beaucoup.